L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Amen. Alors là, on va aller vers la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, on continue dans la série sur la bonté de Dieu. On est rendu à la bonté de Dieu numéro 3. Mais le thème, on va mettre deux petits points. Pour l'Internet, ça va être la bonté de Dieu 3, deux petits points, l'élection. Répétez le mot élection. Vous savez, nous sommes une église, on peut se dire pentecôtisant, et on fait partie de ceux qui font partie des églises du plein évangile. Ça veut dire qu'on prêche toute la Bible du début jusqu'à la fin. Amen? Mais dans nos églises pentecôtisantes, on enseigne rarement sur l'élection. En fait, moi, j'ai jamais entendu prêcher sur l'élection de toute ma sainte vie. Ouais, mais là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais dans ton autre vie? » Non, mais dans toute ma sainte vie. J'ai jamais entendu parler sur l'élection, mais c'est dans d'autres camps, si on veut, qui font partie du corps de Christ. J'ai entendu parler de l'élection, mais d'une façon que moi, je crois sincèrement, qui est contraire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir le privilège de faire, c'est de voir ce que Dieu en dit. Parce que tout ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, c'est merveilleux. Il n'y a aucun passage qu'on devrait dire, ouais, ça, cette partie-là, je ne l'aime pas. Ça ne devrait pas être notre réaction. On devrait lire la parole de Dieu et si c'est une correction, même si ça ne nous tente pas, ben peut-être on n'aime pas ça sur le coup. Mais on se laisse enseigner par Dieu, on se laisse corriger, n'est-ce pas? Et là, on se sent bien et heureux. Hein? Il y a des passages, là, on n'aime pas trop ça, mais c'est comme quelqu'un qui a un cancer, pas un cancer nécessairement, mais quelque chose de la gangrène, si on veut. OK, la gangrène. On n'aime pas ça se faire couper le bras, mais on aime ça vivre aussi. Hein? L'illustration, des fois, c'est mieux d'enlever la mauvaise chose pour vivre que de garder la mauvaise chose et de mourir. Vous comprenez? Bon, ben des fois, il y a des passages comme ça, on trouve ça moins trippant, hein, québécois, moins trippant. Mais il y en a d'autres aussi qu'on lit et on dit, wow, gloire à Dieu, ça me réjouit parce que c'est tellement évident. Mais ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un passage dans Romains, chapitre 9, où on parle de l'élection. Et souvent, dans nos églises, on n'en parle pas. On passe à côté puis on dit, bon, on le lit, et puis là, on n'en parle pas vraiment, et on dit oui, c'est ça que ça veut dire, puis finalement, on ne va pas en profondeur. Aujourd'hui, moi, j'aimerais ça, on va aller ensemble, on va parler de l'élection, et on va parler de l'élection à la lumière de la bonté de Dieu. Vous savez, comme j'ai dit au tout début de notre série, si on sait dans notre cœur que Dieu est bon, on peut interpréter toute la parole de Dieu à la lumière et avec ces lunettes-là que Dieu est bon. Amen. Si Dieu est bon, toutes les œuvres de Dieu et toutes les choses que Dieu et toutes les choses qu'il va faire dans nos vies, c'est des bonnes choses. Mais là, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça me fait mal. Oui, mais en bout de ligne, c'est pour ton bien. Hein? Quand on corrige notre enfant, c'est pas parce qu'on veut lui faire du mal, mais c'est parce qu'on veut son bien. Hein? Je pourrais vous donner des anecdotes, des fois des punitions, mais je le ferai pas parce que mes enfants n'aimeraient pas ça. Mais je peux parler de moi-même. Moi, j'ai eu des tapes sur les fesses, pas hier, mais quand j'étais plus petit. J'ai eu des tapes sur les fesses quand j'étais plus jeune. À l'époque, moi, je n'aimais pas vraiment ça. Hein. Vous pourriez demander à mes parents. J'ai jamais dit, oui, j'aimerais vraiment ça. J'ai besoin de corriger. S'il vous plaît. Non, j'ai jamais demandé ça. J'ai jamais demandé ça. Mais je suis content d'avoir été corrigé parce que, bon, aujourd'hui, ben, je peux vous dire, je n'ai pas fait de prison. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Ils m'ont épargné de la prison. Amen. Hallelujah. Bon, ce matin, on va prier. On va remettre notre temps au Seigneur parce que moi, je suis excité. Parce que je suis excité que Dieu est un bon Dieu. Moi, je suis excité de savoir que tout ce que Dieu nous donne comme information sur lui-même et sur ce qu'il veut faire dans nos vies, ça devrait nous réjouir au lieu de nous faire peur. Hein? Pendant longtemps, on a eu peur du thème de l'élection, mais moi, je n'ai pas peur, je l'affronte en plein visage et je me réjouis. Et on peut faire une petite danse de stepette. Hein? Amen. Alors, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, on veut te remettre ce temps. On te remercie pour ta présence. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Merci, Seigneur. On n'a pas peur d'aucun passage dans la parole de Dieu, mais on lit ces textes-là et on te remercie d'être illuminé par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, on va aller dans Romains chapitre 9 Mais avant, j'aimerais juste vous lire un texte dans le psaume 145, reprenant les mêmes textes qu'on a lus les autres fois. Je vais lire seulement deux versets, le psaume 145, versets 8 et 9, qui nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Dites « plein de bonté ». L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc, l'Éternel est bon envers tous. Le croyez-vous ce matin? Dites, l'Éternel est bon envers moi. Là, le croyez-vous? L'Éternel est bon envers moi. Amen. Moi, j'aime ça que ce Seigneur soit bon envers moi. Vous, aimez-vous ça? C'est merveilleux. Comme j'ai dit la semaine passée, Dieu ne se réveille jamais de mauvaise humeur. Et décide d'être de mauvaise humeur avec nous. Non, le Seigneur est bon. Il est lent à la colère, plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Moi, j'aime ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, on va aller dans Romains chapitre 9. Et je vais vous lire dans la Bible du Semeur. On va regarder ensemble sur un texte qu'on a pris. Et on a bâti des traditions et des doctrines concernant l'élection. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ces textes-là. Ensuite, on va enlever les choses qu'on a rajoutées. Amen. Juste pour comprendre ce que Dieu nous dit vraiment. Par la suite, on va voir la volonté de Dieu en opération et on va finir là. Priez pour moi que je puisse tout vous donner. Amen. Romains chapitre 9, on va commencer au verset 15 et on va aller au verset 19. Dieu, en parlant de Dieu, il est écrit, « Il a dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. » Verset 18, « Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Verset 19. Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Ici, nous avons pris ce texte-là et nous voyons que Dieu fait grâce à qui il veut et il va endurcir le cœur de qui il veut. Et là, on comprend, bien certaines personnes ont le cœur disposé à recevoir la bonne nouvelle et ils disent oui à Jésus, ils deviennent un enfant de Dieu et ils s'en vont au ciel. On comprend ça. Donc, la grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Éphésiens 2, 8, n'est-ce pas? Mais là, Dieu endurcit le cœur de qui il veut aussi. On vient de lire ça. Et là, dans le texte, ça dit, oui, mais le dernier verset 19, tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Si Dieu veut m'endurcir le cœur, comment est-ce que ça serait même possible que je sois sauvé? Si mon cœur est devenu dur, c'est la faute de Dieu. Comprenez-vous? Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces textes-là et on a créé la doctrine calviniste, qui est une doctrine qui dit, Dieu choisit certains pour le salut. Et on va voir ensemble. Quittez pas, là, allez pas au McDo dans vos pensées. Vraiment, rendez toutes vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce qu'une fois que vous allez entendre ce message-là, vous allez être ruiné pour la séduction à ce niveau-là. Amen. Ce matin, je veux qu'on va vraiment avoir ce que Dieu dit et vous allez trouver ça libérateur. Parce que là, vous ne ferez plus jamais avoir. Vous allez vraiment être libre. Amen. Bon, sauf que là, l'enseignement dit, ça, c'est l'enseignement, et je veux juste rajouter, c'est important qu'on soit exposé à ces enseignements-là, qu'on soit au courant de ce qui est véhiculé à l'extérieur. Parce que vous allez rencontrer des croyants qui vont être découragés, qui vont être en dépression, pensant que Dieu ne les a pas choisis pour le salut. J'ai rencontré une personne découragée, voulant même être proche du suicide, pensant que Dieu ne l'aimait pas, que Dieu voulait rejeter cette personne-là. Si on demeure ignorant de ces choses-là et de la fausse doctrine qui circule, comment est-ce qu'on va faire vraiment pour amener la lumière? Donc aujourd'hui, je pense que c'est important. Pensez-vous? C'est important. On va connaître la vérité ensemble et après on va être un instrument entre les mains de Dieu pour amener la liberté aux gens. Parce que la Bible dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir ou va te rendre libre. » Donc, il faut la connaître, la vérité. Amen. Donc, l'enseignement typique calviniste à ce niveau-là, c'est que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a dit, « Toi, tu vas être sauvé. Toi, tu vas être sauvé. Toi, tu vas être sauvé. Toi, je te choisis. Toi, je te choisis. » Par déduction, tous ceux que Dieu n'a pas choisis, c'est comme s'il y a une trappe à leur place et puis ils s'en vont en enfer pour l'éternité, brûlés en enfer pour l'éternité. C'est l'enseignement qui est circulé dans nos églises évangéliques où on croit dans le calvinisme, selon la doctrine de Jean Calvin. Donc, ça veut dire que Dieu choisit certains pour être sauvés, et puisqu'il n'a pas choisi d'autres pour être sauvés, automatiquement, les autres s'en vont brûler en enfer pour l'éternité. J'étais dans un séminaire chrétien, et puis on m'enseignait cette fausse doctrine-là, et j'ai dit, oui, mais ça veut dire que Dieu choisit des gens pour aller en enfer? Et le professeur a dit, non, ça ne veut pas dire que Dieu choisit les gens pour aller en enfer, c'est juste, ça l'arrive par déduction, parce que Dieu ne les a pas choisis pour le salut. Mais ça revient à la même affaire. N'est-ce pas? Ça revient à la même affaire. C'est que Dieu choisit certains pour être sauvés et d'autres, malheureusement, je ne t'ai pas choisi. Tu t'en vas brûler en enfer pour l'éternité. Moi, j'ai un problème avec cet enseignement-là. Certains vont dire, sais-tu pourquoi tu as un problème avec l'enseignement? C'est parce que tu veux gagner ton ciel par tes forces. Donc, c'est par l'orgueil. Et c'est ça qui nous donne comme enseignement pour raisonner qu'on doit croire cette doctrine-là. Aujourd'hui, je peux vous dire, je ne crois pas cet enseignement-là parce que c'est anti-biblique. C'est pour ça que je ne crois pas dans cet enseignement-là. Et vous allez voir la bonne façon de comprendre les textes qu'on vient de lire. Ça va être super bon. Puis, pas passer moi, parce que moi, je crois que c'est tellement glorieux quand on comprend l'élection. C'est pour ça que c'est bon. Parce que notre bon Dieu ne cesse pas d'être bon quand on lit Romains chapitre 9. Amen. Il reste toujours bon. Amen. Donc, on va continuer, après on va décortiquer. Romains chapitre 9, versets 20 à 25, c'est dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ou courant? Verset 22, et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Là, on vient de lire la Bible, la parole de Dieu, ça semble dire des choses qui nous dérangent, n'est-ce pas? Là, ce qu'on va faire, on va regarder verset par verset et on va être encouragé. Alors, on va recommencer. Romains chapitre 9 et on va aller au verset 15. Dieu dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Amen. Je n'ai pas de problème avec ça. Dieu choisit de révéler sa grâce à qui il veut. Mais savez-vous la bonne nouvelle? C'est que Dieu révèle sa grâce à toute l'humanité. Une des choses que je dois vous expliquer, comme on a vu les autres fois, je vais vous montrer dans 2 Pierre 3, 9. Ça, c'est le verset clé qu'on a absolument besoin de connaître. 2 Pierre 3, 9. Ça va nous aider à comprendre le restant des versets qu'on va voir ensemble. 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Est-ce que c'est clair? Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, est-ce que Dieu se contredit d'un verset à l'autre? Non. Quand on prend la Bible à la lumière des autres passages, on va comprendre ça ensemble. Donc, premièrement, on doit comprendre que Dieu veut sauver tout le monde. Donc, on va lire, bon, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait pitié, il a pitié pour qui il veut avoir pitié. Verset 16, ça dit, « Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme. » Le « cela », c'est quoi? Le « cela », c'est la grâce. La grâce ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Voyez-vous, on a pris le verset 16 pour dire que le salut ne dépend pas de la volonté de l'homme, dans le sens, c'est pas l'homme qui peut créer le chemin du salut. Et absolument, le salut par grâce, c'est Dieu qui a conçu l'idée. Ce n'est pas la volonté de l'homme que l'homme a dit, « Bon, Jésus-Christ va venir mourir sur la croix, il va payer ma dette de péché. » Ça ne vient pas de la volonté de l'homme, c'est de la volonté de Dieu. Le chemin du salut a été conçu par le Seigneur Jésus-Christ, par Dieu. C'est tout l'évangile, la façon qu'on passe de la vie à la mort, c'est l'idée de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est pas l'homme qui dit, oh, si seulement Dieu, tu faisais ci, tu faisais ça, je trouve que ça serait une bonne affaire. Pas du tout. Donc, vous comprenez, vous me suivez, là? Verset 18. Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et le texte qu'on regardait en haut, c'était Jacob et Ésaü dans le contexte. Et là, même dans Romains 1, 28, ça nous parle que Dieu va même livrer les pécheurs à la débauche. Il va même les abandonner à leurs désirs charnels. Une des choses qu'on doit vraiment, vraiment comprendre, c'est que Dieu n'habite pas ou n'est pas lié par le temps. Dieu est en dehors le temps. Il faut comprendre ça et ça va nous aider à comprendre tout le restant. Dieu n'a pas de date de naissance. Dieu n'a pas de date où il va mourir. Dieu est éternel. Si on recule en arrière, on ne peut pas dire, ah, Jésus, oui, on sait que Jésus s'est incarné à un certain moment, mais de toute l'éternité, le Créateur de l'univers, l'éternel, n'a pas de date de naissance. Puisque Dieu n'a jamais cessé d'exister, puisqu'il ne cessera jamais d'exister, mais il est l'éternel, n'est pas gouverné par le temps. Ceci dit, Dieu, il sait que, bon, moi, je vais naître une telle date, il savait depuis l'éternité, il savait que j'étais pour naître une telle journée, et il connaît la journée que je vais être enlevé au ciel dans l'enlèvement de l'Église. Je vous passe une petite joke. Je ne mourrai pas. Hein? Je vais me laisser enlever. Mais si je mourrais, il connaît la date. Parce que moi, je suis un être humain. Je suis limité par le temps. Si quelqu'un dit, j'aimerais ça te rencontrer demain matin, ça se peut que je vais dire, je ne peux pas, j'ai un autre rendez-vous. Moi, je suis limité. Mais Dieu, il peut entendre toutes nos prières, tout le monde en même temps, sur tous les continents, et il n'y a pas de problème. Vous n'allez jamais prendre le téléphone ou le téléphone céleste et dire, Seigneur, j'aimerais te parler. Désolé, je suis présentement sur une autre ligne. Non, ça n'arrive pas. Dieu est éternel, il est grand. Et dans sa préséance, Dieu sait à l'avance tout ce qui va se passer. Dieu connaît le jour qu'on va accepter le Seigneur, il sait déjà. Et il connaissait même Pharaon. Il connaissait le cœur de Pharaon. Il savait comment c'était un homme méchant. Et puis Dieu, sachant que Pharaon, dans son cœur, qu'il était méchant, il a dit, « T'es comme ça, toi? Bien, je vais t'endurcir ton cœur. Je vais t'endurcir comme ça, là. Tu veux vraiment être méchant? Je vais te laisser vraiment être méchant. » Et là, il va vivre la conséquence de sa méchanceté. Mais voyez-vous, Dieu a fait des choses comme ça parce qu'il est en dehors du temps. Nous autres, des fois, on lit des textes comme ça, puis si on ne pense pas que Dieu est plus grand que nous, on va diminuer Dieu à notre compréhension. Et puis là, on va dire, Dieu a dit, Pharaon, toi, tu vas avoir un cœur dur. Et là, après, on va lui donner une conséquence, et puis on va dire, c'est la faute de Dieu, regarde, il a donné une conséquence. Mais si on comprend que Dieu est en dehors du temps, et Dieu connaît vraiment le cœur de Pharaon, et Dieu peut endurcir son cœur. Mais si, en même temps, il connaît le cœur de ma femme, admettons, et puis il sait vraiment, elle a un cœur selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui aime Dieu, c'est une femme qui a une compassion. Dieu peut dire, moi, je vais faire grâce à Mathilde. Je vais y en donner encore plus de la grâce. Et là, ça déborde. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais quand on comprend ça, on va voir ensemble, c'est dans 1 Pierre 1, versets 1 à 2, ça nous parle ici de la préséance de Dieu. On va lire ensemble. 1 Pierre, chapitre 1 et versets 1 à 2. En fait, on va juste aller au verset 2. C'est dit en parlant des croyants, ils sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Donc, on sait que c'est selon la préséance de Dieu. Romains 8, verset 29, on va aller ensemble dans Romains 8, verset 29. Ici, c'est un texte super important quand on parle de l'élection. On ne peut pas parler de l'élection sans lire ce texte-là. Romains 8, 29, ça dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, on va continuer. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le moment que j'ai donné ma vie à Jésus, bien, j'ai passé de la mort à la vie. Dieu le savait à l'avance. Et là, moi, je fais partie de ceux qui sont en Christ. Étant en Christ, dans la position du corps de Christ, là, je suis prédestiné à vivre la gloire parce que je fais partie de la compagnie de ceux qui s'en vont hériter le ciel. Savez-vous, le ciel, c'est une place glorieuse. Et tous ceux qui vont aller au ciel ont été prédestinés au salut. Savez-vous ça? Parce que Dieu connaissait à l'avance ceux qui étaient pour l'accepter. Mais la prédestination, ce n'est pas toi, 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 toi. C'est Dieu savait déjà qui disait « Oui, Seigneur ». Dieu, le sachant à l'avance, Dieu, dans sa connaissance et dans sa gloire, Dieu a fait en sorte qu'on soit prédestiné. Amen. Donc, c'est super important. Amen. Et là, au verset 24 de Romains chapitre 9, verset 24, ça dit, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il a dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Amen. Une autre chose qu'on doit voir dans le même passage, verset 22, il s'est dit, « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? » Ici, c'est un mot assez fort, « formé pour la perdition » ou « formé pour l'enfer ». Savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux dans ce monde aujourd'hui? On peut faire des recherches pour aller voir dans le grec et dans l'hébreu pour voir qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, former. On peut comparer d'une version à l'autre. En français courant, c'est dit mur pour la ruine. Donc Dieu, c'est dit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, bien, dans la Bible du Sommeur, c'est dit tout prêt pour la destruction. Si on est un vase de colère, ça veut dire qu'on est un vase, on est une personne qui refuse Jésus-Christ, qui marche dans le péché, qui ne veut rien savoir de Dieu. Bien là, la Bible dit que la destinée de cette personne-là, c'est la perdition, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais Dieu, dans son amour, nous a tellement aimés qu'il voulait vraiment être certain que personne ne s'en aille en enfer. Donc, il s'est donné lui-même en mourant sur la croix, payant notre dette de péché. C'est lui qui l'a payé à notre place. On connaît ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais savez-vous, j'ai lu dans d'autres versions, mais après j'ai lu dans le grec. Ça dit « ajuster pour la perdition ». Ajuster. Savez-vous, une femme qui veut se marier, admettons, elle magasine, elle trouve une belle robe, mais ça ne fait pas vraiment correctement. Donc, le tailleur ou la dame-là va ajuster la robe pour que ça puisse vraiment lui faire. N'est-ce pas? Il n'y a personne qui a été préparé pour aller en enfer. Mais celui qui veut porter les vêtements de l'enfer doit vivre un ajustement pour se préparer à être séparé de Dieu. Ce n'est pas des vases que Dieu a choisis. C'est toi, je veux que tu brûles en enfer. Non, Dieu a tout fait pour nous empêcher d'aller en enfer. C'est juste des vases ajustés pour la perdition. Voyez-vous la différence que ça fait? Former ou ajuster, c'est une différence. C'est bon d'aller des fois dans le grec. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu Romains chapitre 9, sachant que Dieu est en dehors du temps et que Dieu sait toutes choses en avance. Bien, on peut comprendre ce texte-là très facilement maintenant. On peut comprendre que ce texte-là nous parle de ceux qui rejettent Jésus-Christ et ceux qui l'acceptent, Dieu sait à l'avance. Et ceux-là font partie des prédestinés. Maintenant, on a parlé ici, des vases d'honneur et un vase d'un usage vil ou d'un vase courant. D'un usage courant. Il y a des gens qui vont dire, « Bien, moi, je suis juste un vase ordinaire dans l'Église. Moi, je ne suis pas appelé à vivre grand-chose. On peut même dire que je suis un vase vil. » Savez-vous que Dieu ne recherche pas des vases vils dans son Église? si on dit « moi, je suis juste ça », aujourd'hui, c'est la journée où vous allez changer de vocabulaire. Vous allez dire « non, moi, je vais être un vase d'honneur ». Mais c'est Dieu qui décide qui va être un vase d'honneur. Non, ce n'est pas Dieu qui décide si vous allez être un vase d'honneur, c'est vous. On va le voir ensemble. 2 Timothée 2, 19, 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. Il est écrit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Moi, j'aime ça. Ce que Dieu construit, ça reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité ou du péché, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil ou d'un usage commun. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera, dites il sera, il sera un vase d'honneur, sanctifié, ça veut dire mis à part pour Dieu, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Moi, j'aime ça, ce verset-là. Je vais le relire, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est clair? On peut tous devenir des vases d'honneur. Il n'y a personne qui a été créé pour être un vase d'usage vil. Non, mais nous pouvons tous être un vase d'honneur. Dieu va faire couler en nous son Saint-Esprit. Il va nous débarrasser de tous nos bobos, toutes les blessures intérieures, tous les péchés. Il va faire un beau ménage en nous. Et là, sa gloire va resplendir sur nos visages. Et les gens vont nous voir et vont dire, « wow, ça c'est un vase d'honneur pour Dieu. » Ils vont peut-être pas employer les mêmes mots, mais c'est ça qu'ils vont croire. Ils vont dire, « cette personne-là a une touche de Dieu. Cette personne-là a quelque chose de différent. » C'est disponible, quelque chose de différent. C'est possible pour vous. Puis moi, je trouve ça, c'est libérateur. Quand on pense à l'élection, ça ne devrait pas nous décourager. Au contraire, ça devrait nous réjouir et dire, Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'il me donne le choix. Si je veux faire partie de ceux qui vont être dans l'honneur, moi, je peux en faire partie. Amen. Ça devrait nous réjouir. Moi, je pense l'heure est arrivée de réclamer, de reprendre cette doctrine-là qui a été traînée dans la boue, qui a noirci le caractère de mon Dieu, qui est un bon Dieu, et reprendre cette doctrine-là pour dire finalement, Dieu est bon. Dieu est bon envers tous. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais veut que tous parviennent à la repentance. Mon Dieu, non seulement est-ce qu'il veut me sauver, mais il veut faire de ma vie un chef-d'œuvre pour sa gloire. Non seulement ça, je vais être un vase d'honneur. Les gens vont me voir et ils vont voir la gloire de Dieu sur moi. Ça, c'est le bon Dieu qu'on sert. C'est le bon Dieu qu'on prêche ici. On ne prêchera jamais que Dieu dit, « Toi, tu vas te sauver. » Toi, oui. Non. Ça, c'est d'assassiner le caractère de Dieu. C'est comme si moi, j'avais des enfants, j'avais une douzaine d'enfants. Je choisissais 4 pour être sauvé. Les autres, je dirais aux voleurs. Je dis rien. Fais ta job. Non. Non. Dieu est plus grand que nous. Dieu est plus rempli d'amour que nous. Non seulement ça, Dieu veut faire de nous des vases d'honneur, mais il veut qu'on porte du fruit aussi. Donc, on peut s'imaginer un beau vase avec... je ne sais pas, une sorte de plante avec plein de fruits. Hein, c'est imagé ce matin. Jean chapitre 15, on va lire ça ensemble. Jean chapitre 15, verset 1. Vous êtes encore là avec moi? Vous n'êtes pas endormi là? Excusez, je vais prendre une pause commerciale. Jean chapitre 15, commençons au verset 1. Je suis le vrai cep ou la vigne, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ah, j'aime pas ça, moi, me faire tailler, mais c'est pour que tu puisses porter encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dieu nous exhorte parce que c'est important, n'est-ce pas? Dieu nous exhorte ici parce qu'il veut que ça l'arrive. demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voyez-vous, Dieu veut que vous puissiez porter beaucoup de fruits dans vos vies. Ne soyez pas satisfait à porter un petit raisin, mais portez beaucoup de fruits pour sa gloire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, rien faire d'important. On peut faire plein de choses, mais qui sont inutiles, qui n'ont pas une valeur éternelle. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La volonté du Père, c'est qu'on soit des vases d'honneur. Et l'autre chose, c'est qu'on porte beaucoup de fruits, qu'on porte ces fruits abondants. Et c'est à ce moment-là que le Père va être glorifié. N'est-ce pas merveilleux? Mais là, il faut penser aussi, ça c'est la volonté de Dieu, mais la volonté de l'homme là-dedans. Est-ce que l'homme a une volonté? Oui. Et c'est ça, des fois, on passe à côté la volonté de l'homme. Parce qu'on dit, ben Dieu est souverain, et Dieu, dans sa souveraineté, Dieu fait toujours ce qu'il veut. Ça, c'est faux. Dieu ne contredira jamais sa parole. Amen? Croyez-vous ça? Est-ce que Dieu va mentir? Non. Dieu ne mentira jamais. Si Dieu dit, aujourd'hui, c'est lundi, et moi, je dis, non, c'est dimanche, le moment qu'il a dit que c'était lundi, ça devient lundi. Parce que ce que Dieu dit, ça l'arrive. C'est vrai? Il dit, soleil, t'arrêtes. Lune, tout ça, les étoiles, faites un petit chemin, je m'en viens. Il peut tout tasser, lui. Il est plus grand que nous. Dieu dit vrai. Amen. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a délégué de l'autorité à l'être humain. Et nous, avec cette autorité, on peut choisir soit Dieu, soit l'ennemi. Dans l'Apocalypse 22, verset 17, ça dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Je vais vous faire répéter, « Que celui qui veut, que celui qui veut, voulez-vous, voulez-vous l'eau de la vie? » Ben, c'est simple. « Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Ça ne vous coûte rien en plus. C'est gratuit. Ce que celui qui veut vienne. Qu'il vienne, celui-là. C'est ça que Dieu dit. Je veux être sauvé. Ah, tu n'as pas dû être élu, toi. Peut-être pas. Regarde ta vie, c'est tout croche. Sûrement, là, oh, je sais, tu as tout le temps de la misère. C'est parce que tu essaies d'être sauvé par tes forces. Puis tu ne seras jamais sauvé. Tu n'as probablement pas été prédestiné au salut. Ça, c'est mauvais. C'est pas la vérité. Deutéronome 30, 19, c'est le verset, je pense, qu'on lit le plus souvent à l'église de la Victoire, puis je vais le lire encore. 30, 19, Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. » Mais Dieu ne donne pas un choix. Oui, Dieu nous donne un choix. Dieu nous donne un choix. Est-ce qu'on veut marcher avec lui ou on veut marcher avec le diable? Nous ne sommes pas des robots. Nous avons le choix de servir le Seigneur ou de le rejeter. Adam et Ève, est-ce qu'il y avait un choix? Oui, ils ont pris le mauvais choix. Nous, on a le privilège aujourd'hui d'avoir la parole de Dieu qui nous dit comment prendre le bon choix. Le bon choix, c'est de recevoir Jésus-Christ dans notre vie et de réaliser qu'on est mort au péché, qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On a besoin du Sauveur. Et non seulement qu'on reçoit le Sauveur dans notre vie, mais on décrète après qu'il est le Seigneur de notre vie. Ça veut dire que c'est celui qui est en charge de notre vie. C'est lui le gros boss. Jésus est le boss de ma vie. C'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Mais vous avez le choix. Vous pouvez dire, ben moi je suis un chrétien, mais Jésus, Seigneur de ma vie, j'aimerais mieux le mettre de côté et je vais faire ma volonté pendant un temps. Et Dieu va respecter votre volonté, savez-vous ça? Dieu va respecter votre volonté, mais vous allez passer à côté toutes les bénédictions que Dieu avait en réserve pendant qu'il vous appelait à faire quelque chose. Si Dieu dit, Joël, je ne sais pas, je vais penser à quelque chose vite, vite. Joël, va, appelle quelqu'un de l'église. Le Seigneur me donne le nom de Dominique, admettons. Appelle Dominique. Je pense qu'il a besoin d'encouragement. Là, j'appelle Dominique et je l'encourage. Bon, j'ai eu le choix. Le Saint-Esprit a pu me dire, Joël, appelle Dominique. Oh, j'aime mieux écouter mon film. Je me suis fait du popcorn, Seigneur. Là, Dieu, il ne me forcera pas, le téléphone ne sortira pas surnaturellement. Non, Dieu me donne le choix de le faire ou de résister à sa volonté. Mais si je dis oui, Seigneur, ben qu'est-ce qui se passe? Mon frère va être béni. Moi, je vais être béni. Et Dieu va être béni. Mais Dieu respecte notre choix. Si on dit, savez-vous, le ciel, c'est tellement facile d'aller au ciel. C'est facile au bout. Jésus il a payé le prix. Jésus a fait ce qu'il y avait de difficile. Nous, hey, pour être sauvés, savez-vous qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez besoin de prononcer oui. C'est ça, c'est la seule prière. La prière la plus simple, c'est de dire oui, je te donne ma vie. Dieu, il dit, hey, je veux ta vie, je veux vivre en toi, je veux changer ta vie, je veux te libérer de tes péchés, je veux te donner une vie en abondance. Et c'est ça que j'aimerais faire dans ta vie, c'est ça que Dieu vous dit aujourd'hui. Et les gens aussi par l'Internet, la radio, Dieu vous dit, je veux être dans votre vie. Il s'attend à une chose de vous. Il ne vous demande pas de faire le chapelet 50 000 fois pour être sauvé. Il attend un oui. Une fois que vous dites oui, bidding badang, bingo, vous venez d'avoir une place au ciel. Et là, vous commencez à marcher avec Jésus. Là, vous dites, ouais, mais ça doit être difficile. Mais c'est pour ça que Dieu nous donne des frères et des sœurs dans une église pour nous aider quand c'est plus difficile. Puis là, ah, ça ne va pas bien de ce temps-ci, toi. Mais viens, je vais t'aider. Ah, c'est ça que Dieu veut, qu'on soit dans une église pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse se célébrer mutuellement, se réjouir ensemble. Et quand quelqu'un vit un deuil, bien, on est là aussi pour appuyer la personne. Dieu nous appelle à vivre comme ça, des frères et des sœurs, pour qu'on puisse vraiment s'aimer et apprendre à l'aimer en s'aimant ensemble. Comprenez? Amen. Bon. Tout ça pour dire que l'être humain a un choix. Et moi, ma prière pour vous, c'est que vous allez dire oui à Jésus dans tous les domaines de vos vies. Là, je dois prendre un oui, mais. Parce que j'entends des fois des petites voix, c'est bien beau, oui, mais. Mais j'aimais ça. Steve est dans mon groupe vie, et puis il nous partageait, il y a plein de mais dans la parole de Dieu qui sont positifs. Comme des fois, c'est le désastre, mais Dieu fait quelque chose. Il y a un bon mais, il y a des bons mais. Mais la majorité que moi j'entends, c'est « oui, mais ». Il y a une promesse, mais. Là, je vais vous donner un petit « mais ». Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, 14. Peu d'élus. J'ai parlé avec mon beau-père, il me parlait de ça. Et il lisait dans Éphésiens, on était avec eux au Mont-Tremblant. On attendait les épouses. Nous, on était dans l'auto pendant que les épouses magasinaient. Et puis là, il me parlait de sa lecture. Il m'a expliqué ça, sa façon de comprendre, puis vous me donnez la permission de répéter. J'ai trouvé ça c'était bon. Il dit, c'est comme si, Joël, toi, tu veux être le maire de Bromont. Là, tu te mets, comment que tu t'affiches comme potentiel aux élections. OK. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est comme si, peut-être je l'explique mal, mais vous pourrez parler avec lui après. j'ai juste aimé l'illustration. Mais là, peut-être je suis prédestiné à devenir le maire de Bromont. En passant, j'ai aucun désir de le devenir, là. Mais admettons, je suis prédestiné. Okay? Dieu m'avait choisi d'être le maire à Bromont, mais je peux juste entrer en fonction si je vis l'élection, si les gens votent pour moi. Hein? C'est comme, je peux juste être élu si je me présente au poste. Si je me présente jamais, je ne peux pas être élu. Impossible. Hein? En tout cas, vous pourrez parler avec lui, il va tout vous réexpliquer ça. Moi, j'ai le don surnaturel de tout moffer les histoires. Hein, ma femme, elle me le dit, en tout cas. OK, le oui, mais. Jésus n'avait-il pas dit que l'homme ne l'avait pas choisi? Ah, en effet, dans Jean 15, verset 16, ça dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous ayez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus parlait à qui quand on lit ce texte-là? Jésus parlait à ses 12 apôtres. Savez-vous que ce n'est pas Matthieu qui dit, « Hey, Jésus, c'est toi, moi, tu vas être mon enseignant. » Ça n'a pas fonctionné comme ça. C'est Jésus qui a choisi qui était pour être ses 12 apôtres. Voyez-vous une différence? Un texte hors contexte? Oui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et aussi, c'est Dieu qui a choisi de venir sauver l'humanité, et pas l'inverse. C'est pas nous, on a dit, ben, tu vas venir mourir sur la croix, j'ai choisi que tu vas faire ça. Non, ça c'est l'idée de Dieu. On a besoin d'être délivré des fausses doctrines, n'est-ce pas? Des choses qui nous volent l'héritage du croyant. Dieu, là, si on est élu, ça devrait juste nous réjouir. On fait partie de l'élection. On fait partie de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans sa bonté. Et là, les versets libérateurs. Êtes-vous prêts de vivre une libération ce matin? Le plancher, je ne sais pas si ça va vibrer, mais ça peut vous libérer à tout jamais. Prenez-le en note. Éphésiens 1. En passant, j'étais dans le séminaire. Et pendant que le professeur enseignait, j'étais poli. J'ai resté poli. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de souligner deux petites choses. Parce que moi, je m'en allais là, pour apprendre. Mais qu'est-ce qu'on m'enseignait? C'était révoltant pour moi. Je ne croyais pas ça. Éphésiens 1, verset 11, ça dit, « En lui, dites en lui. » Ça, il faut le dire 10 fois quasiment. « En lui, » on ne le dira pas 10 fois, là. Arrêtez. Arrêtez ça, arrêtez. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Bon. « En lui, moi, je suis prédestiné à quoi? À être un héritier. En lui. Si je ne suis pas en lui, je ne suis pas prédestiné à vivre le ciel. » Je ne suis pas destiné à vivre le ciel si je ne suis pas en Christ. Mais si je suis en Christ, en lui, je suis devenu un enfant de Dieu qui est dans le corps de Christ. Là, je suis, c'est-à-dire en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais justement, d'après le conseil de sa volonté, est-ce que Dieu veut vraiment te sauver? » Oui, parce que dans 2 Pierre 3, 9, ça dit... il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je l'ai ma réponse, je sais c'est quoi sa volonté, Dieu veut sauver tout le monde. C'est qui, vous pensez, qui veut que les croyants pensent que Dieu ne veut pas sauver tout le monde? Le diable, c'est sûr. Et là, on est une gang de chrétiens, puis on se fait tout donner des fausses doctrines de main, on gobe ça comme du petit pain chaud, puis on n'est pas plus fin. Non, mais c'est vrai. Il faut dire, « Hey, c'est pas vrai ça. Il veut pas que personne périsse. Mon Dieu, c'est un bon Dieu. » Puis là, on dit aux mauvais esprits qui veulent tout nous faire accroire des mensonges au sujet de notre Dieu et qui découragent nos frères et nos sœurs. On dit, « Va-t'en de notre église. Tu vas pas prêcher ça chez nous. » Ça vient du, comme on dit en anglais, « the pit of hell », en français, je sais pas comment on dit. Les profondeurs de l'enfer. C'est vrai. Ça, c'est qu'est-ce que je crois. Alléluia. Bon, là, c'est la partie fun de la prédestination. En lui. Aussi, une petite note. Ça, c'est en passant, c'est des notes que vous retrouverez dans le livre « Le disciple victorieux ». Le corps de Christ est prédestiné, et non pas l'individu à l'extérieur ou indépendamment de ce corps. Comprenez-vous? C'est le corps de Christ qui est prédestiné à vivre la gloire. Et dans Éphésiens, chapitre 1, 3 à 6, il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Pourquoi? Dieu est en dehors du temps. « Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Ça devrait nous réjouir. En lui, en lui, en lui. Si quelqu'un te dit, tu crois-tu dans l'élection? Oui, certainement. En lui, en lui, en lui, en lui. En lui, je suis prédestiné. En lui, je vais vivre la gloire du ciel. Ouais, mais en lui, ça vient de s'éteindre. C'est-tu facile un peu, l'élection, la prédestination? Cassez-vous pas la tête à scruter pendant des années? Moi, j'avais étudié ça, j'étais rendu plein de problèmes. Je disais à ma femme, « Ouais, l'élection, prédestination, j'étudiais les textes, ça me dérangeait. » Puis là, après un bout de temps, j'ai réalisé, c'est Saint-Esprit qui m'a parlé dans mon cœur. Il dit, « Joël, tu as perdu ta joie, tu as perdu ta paix, tu as perdu la raison pourquoi je t'ai sauvé. Tu te laisses voler. » Si c'était mon Saint-Esprit qui t'enseignait la vérité, ça ne serait pas le fruit dans ta vie. Ce n'est pas comme ça que j'enseigne, en nous cassant la tête et en se faisant voler notre joie et notre paix. Alors moi, que j'ai fait à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, même si je ne comprends jamais cette doctrine-là, je te remets tout ça en tes mains et en ton temps, tu me feras comprendre. En ton temps et en son temps, Dieu m'a montré en lui, en lui, en lui. Puis là, après, moi, il n'y a plus personne qui peut me faire avaler une fausse doctrine comme ça. J'ai jamais cru, mais en même temps, je voulais croire la Bible. Moi, je suis une personne, comme vous savez, je ne vais pas plus loin que la Bible. En tout cas, c'est ça mon désir. Si quelqu'un amène une nouvelle doctrine, parfait, on va l'examiner à la lumière de la parole. Puis des fois, il y a des gens qui disent, « Ouais, mais c'est pas dans la parole. » Ben, moi, je ne suis pas là-dedans non plus, d'abord. C'est vrai? La destinée ultime de ceux en lui. Là, vous êtes encore patient? Il me reste encore 10 minutes de gloire. Romains 8, verset 29, 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, on l'a lu tantôt, mais ça me tente de le lire encore, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez-vous comment est-ce qu'on est prédestiné? On est prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. En se rendant au ciel, on va ressembler à Jésus. Savez-vous ça? Peut-être pas physiquement, on n'aura peut-être pas les mêmes cheveux, hein? Ma femme n'aura peut-être pas de barbe au ciel, mais on va être semblable dans sa nature, son caractère. Amen. Non, mais c'est vraiment, il a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et là, voyez-vous comment ça marche? Je l'ai lu, mais je vais le relire. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Regardons l'appel ensemble, dans Proverbe 1. On va regarder ensemble dans Proverbe 1, comment Dieu appelle. Proverbe 1, on va lire versets 24 à 33. Et j'ai presque fini. Dites gloire à Dieu. Proverbe 1, verset 24. Ici, on voit l'appel de Dieu. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Je veux juste m'arrêter ici, là. Si on choisit notre propre chemin, bien, c'est un chemin insensé, un chemin des stupides, comme on lit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le fun. Mais verset 33, « Mais Dieu, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Ça, c'est pas mal plus encourageant. « Celui qui m'écoute, » c'est Proverbe 1, verset 33, « Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, à Bromont, et sans craindre aucun mal. » Ou à Eastman. « Vive dans la tranquillité, avoir la sainte paix. » C'est ça que Dieu veut. Amen. Donc, Dieu fait un appel, il nous laisse libre, je pense qu'on vient de lire ici, puis il nous donne en plus le bon conseil qu'on devrait prendre. Et là, ici, en parlant des élections, on va aller dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Je termine dans quelques instants. Là, ça nous parle encore de l'élection. 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 9, ça dit, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On était dans les ténèbres, on était appelé. C'est comme si Dieu dit, Joël, viens-t'en, Joël, sors des ténèbres, viens avec moi. Si tu te présentes, tu vas être élu. Peut-être je vais avoir une section dans la Nouvelle Jérusalem. Hein, à gouverner, je ne sais pas quelle section. Mais Dieu nous appelle. La responsabilité de l'homme maintenant, on a vu l'élection, la prédestination et le choix de l'homme. Bon, on peut prendre un choix, mais il y a une responsabilité qui vient avec. Si vous devenez le maire de Granby ou de Bromont, savez-vous qu'ils vont s'attendre à quelque chose de vous? Hey, j'ai été élu à cette heure-là. Là, je peux avoir quelqu'un va venir me livrer mon Tim Hortons chaque matin. Ça va être cool. Mais si vous rentrez au bureau et quelqu'un vient vous livrer votre Tim Hortons, ils vont s'attendre que vous allez travailler un peu. La responsabilité de l'homme en face de cette élection. 2 Pierre 1,10. Frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, nous avons une responsabilité, n'est-ce pas? Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Ça veut dire marcher avec Dieu. Appliquez-vous. Soyez fidèles. Marchez avec lui. Soyez stable avec lui. Dites pas, ben moi, je marche avec Dieu aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être avec Satan. La semaine d'après, avec quelqu'un d'autre. Non, marchez toujours avec Dieu. Amen. Dans 1 Jean 5, 13, je vous écris ces choses en parlant de la parole de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. On peut le savoir aujourd'hui qu'on a la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voyez-vous, c'est un verbe actif. Vous qui croyez. Croyons à ce moment-là. Appliquons-nous à nous affermir dans la foi en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. En terminant, nous devons reconnaître que l'honneur vient de lui. On le reconnaît dans toutes nos voies. Et dans Hébreux 4, 16, ça nous dit, « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. » Amen. Dieu est pour vous aujourd'hui. Dieu veut vous libérer de toutes les choses qui peuvent vous nuire. Le Seigneur Jésus est venu payer le prix ultime à la croix. Et quand Jésus est venu sur la croix, sur la terre, mais pour mourir sur la croix, il y avait votre visage dans sa tête. Il pensait à vous. Je suis convaincu qu'il savait pour qui il est en train de mourir. Il voyait ces âmes-là. Il n'y a personne que le Seigneur Jésus veut mettre de côté. Le Seigneur veut sauver tout le monde. Toutes les âmes de la terre. Quand vous évangélisez, là, pensez jamais, ça vaut-il la peine? Peut-être que cette personne-là n'est pas appelée. Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Alors relâchez votre foi quand vous partagez votre foi à quelqu'un. Attendez-vous que Dieu veut sauver cette personne-là. C'est dans son cœur. Dieu veut. Jésus nous aime tellement qu'il a payé le prix ultime. C'était super difficile pour lui d'aller mourir sur la croix. Pour nous, c'est facile. On a juste besoin de dire oui. Et après, dire oui chaque jour de notre vie. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai, le oui au début, c'est dire oui, Seigneur, je te donne ma vie. Mais après, chaque jour, quand Dieu dit, ben, fais pas ça, Joël. Ben, c'est pas parce qu'il veut mon mal, c'est qu'il veut mon bien. Quand je dis à mon enfant, mets pas tes mains sur le four pendant que c'est chaud, c'est pas parce que je veux enlever un plaisir à mon enfant, c'est parce que je veux protéger mon enfant. En passant, chaque fois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit, ne faites pas ci, là, c'est toujours, toujours pour notre bien. Parce que Dieu est tellement bon, il veut nous épargner des bobos. C'est juste ça. Des fois, les gens, ils disent, la religion, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. On peut tout faire ce qu'on veut, mais on va récolter plein de problèmes. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Si vous faites des semences dans le péché, dans la chair, dans l'adultère, c'est la destruction qui vous attend. Mais si vous semez dans l'esprit, vous marchez avec Dieu à tous les jours de votre vie, ben là, le ciel vous attend, mais non seulement la vie abondante au ciel vous attend un jour, mais aujourd'hui, la vie abondante commence. Ça commence aujourd'hui. Avant, vous aviez un problème intérieur, une blessure, mais là, vous dites oui au Seigneur Jésus, et là, son esprit vient guérir cette blessure-là. Peut-être que vous aviez des chicanes, des guerres, des conflits dans votre famille. Et là, vous dites, Seigneur, laisse-moi être un instrument de ton amour. Et là, vous aimez votre famille. Et là, votre famille vit une guérison. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau des finances. Et là, vous dites, Seigneur, enseigne-moi comment gérer mes finances. Et Dieu dit, voici comment. Et là, tout d'un coup, vos finances vont vivre un changement. Vous savez, Dieu, là, c'est un bon papa. Il veut nous épargner des choses terribles que l'ennemi veut nous donner. Si on peut juste dire, Seigneur, oui, je te donne ma vie 100%, le Seigneur va la prendre. Dieu va prendre notre vie. Et puis, comme je dis souvent, il va prendre notre vie pour faire quelque chose de merveilleux. Le Seigneur, aujourd'hui, pendant que tout le monde, vous penchez vos têtes, s'il vous plaît. Je crois que le Seigneur est ici, aujourd'hui. Et même pour ceux à la radio et par l'Internet, je crois que le Seigneur est en train de toucher des cœurs aujourd'hui. Des personnes qui, ça fait longtemps, qui ont une soif de Dieu. Ils savent qu'il manque quelque chose en dedans. Comme un vide. Il y a un vide. C'est normal d'avoir le vide s'il n'a jamais été comblé par le Seigneur Jésus. Et seulement Jésus peut combler ce vide-là. On peut essayer l'astrologie, on peut essayer le nouvel âge, on peut essayer la religion, mais Dieu nous envoie Jésus-Christ, son Fils, pour avoir une relation avec nous. Aujourd'hui, si vous avez entendu ce message et vous savez que le Seigneur Jésus vous aime et que vous aimeriez en retour lui dire, « Jésus, je te donne ma vie. » Pendant que toutes les têtes sont penchées, c'est juste Dieu qui vous voit et c'est juste moi aujourd'hui. Les têtes sont déjà toutes penchées. J'aimerais ça vous demander de lever votre main à votre place si vous voulez dire oui à Dieu. Et en passant, aujourd'hui, merci, gloire à Dieu, merci. En passant, personne ne vous a promis demain. Il y a des gens qui viennent à l'église et le lendemain, ils peuvent se faire frapper dans la rue, mourir, passer l'éternité sans Dieu. Et là, ils vont comparaître devant Dieu et Dieu va dire, « Mais qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? J'ai rien fait avec. Pourquoi tu ne l'as pas accepté? Je l'ai envoyé à ta place, mourir sur la croix pour toi. Pourquoi tu n'as pas dit oui? Ça me coûtait trop cher. Non, mais l'éternité, c'est longtemps. L'éternité, ça dure longtemps, l'éternité. Ça coûte juste votre oui aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre personne ce matin qui aimerait dire oui à Dieu? On ne vous gênera pas, on ne vous fera pas venir en avant. Mais Dieu, en ce moment, il voit vos mains. Est-ce que votre main peut se lever comme signe d'abandon à Dieu aujourd'hui? Dit, oui, je te donne ma vie. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prier ensemble en ce moment. Je vais demander à tout le monde de répéter. Seigneur Dieu, je viens devant toi. Je réalise que tu as envoyé ton Fils, Jésus, à ma place. Je réalise que je suis pécheur, que j'ai besoin d'être pardonné. Alors je te reçois comme le sauveur de mon âme. Lave-moi, libère-moi de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette courte mais simple prière, félicitations, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Ce matin, il y a des nouvelles personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Et gloire à toi. En passant, félicitations, c'est le plus grand jour de votre vie. De passer de la mort à la vie. Et quand on a pris cette décision-là, on dit oui à Jésus. Là, après, il faut dire oui à chaque jour. Quand Dieu nous parle, il va nous parler par la parole. Il va nous parler par la parole, il va nous parler dans la prière aussi. C'est la vie la plus glorieuse. Nous, on fait partie des gens les plus heureux sur la terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est libérés de l'enfer. On vit les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, en passant, quand vous les lisez dans la parole, ça dit, sont oui et amen. C'est pas oui, mais c'est oui et amen pour vous. Amen. Qu'il s'en soit fait ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement encore une dernière fois au Seigneur? J'ai invité l'équipe de la louange. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus pour le salut que tu nous donnes en toi. Merci Seigneur Dieu que nous sommes tous élus, tous ceux Seigneur qui t'ont accepté. Merci parce qu'on a déjà notre place au ciel. Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu t'es révélé à nous.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.